VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 février 2018. À la une ce soir, au moins 18 morts et une vingtaine de blessés dans un double attentat à Mogadiscio en Somalie. Au Nigeria, 105 élèves d'un internat pour filles manquent toujours à l'appel. Les donateurs ont promis plus de 400 millions d'euros au G5 Sahel pour combattre les groupes djihadistes. En RCA, tension au quartier PK5 de Bangui, au moins 3 personnes tuées. Les États-Unis devraient transférer leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem à mai. Une provocation selon les autorités palestiniennes. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Deux attentats à la voiture piégés ont visé vendredi à Mogadiscio le palais présidentiel et un hôtel, faisant au moins 18 morts et 20 blessés selon un premier bilan provisoire. La première explosion suivie par des tirs a frappé un poste de contrôle près de Villa Somalia, siège du gouvernement. Une autre voiture chargée d'explosifs a détonné près d'un hôtel récemment ouvert. Le groupe islamiste Shebab a revendiqué le double attentat, affirmant avoir visé des services gouvernementaux. 105 élèves d'un internat pour filles manquent toujours à l'appel après une attaque de Boko Haram à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'affirme Bachir Manzo, président de l'association des parents sans nouvelles de leurs enfants depuis lundi soir. Cette attaque rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014, qui avait donné à Boko Haram, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché », une tragique notoriété sur la scène internationale. À Bruxelles, appui financier de l'Union européenne et d'autres donateurs au G5 Sahel, avec une promesse de plus de 400 millions d'euros pour la force militaire constituée par 5 pays africains pour lutter contre les groupes djihadistes. Abdourahmane Dia.
Pour le secrétaire général de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il faut éviter que le Sahel devienne un sanctuaire pour les groupes djihadistes, car le Sahel, c'est la porte à côté de l'Europe. Le Nigérien Mamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel, estime que le combat que ces pays mènent, ils le mènent aussi pour le reste du monde, raison pour laquelle l'Union européenne et la communauté internationale doivent être solidaires avec le Sahel. L'Union européenne a donc répondu à l'appel avec le doublement de sa contribution financière à la force conjointe du G5 Sahel de 50 à 100 millions d'euros. Les Européens ont tout intérêt à aider à stabiliser le Sahel, devenu une terre où se sont développés les trafics d'êtres humains, de drogues, d'armes qui nourrissent ce terrorisme, a pour sa part plaidé le président français Emmanuel Macron à l'issue de la réunion organisée au siège de la Commission européenne. 32 chefs d'État et de gouvernement ont participé à cette conférence et apporté leur soutien politique et financier aux dirigeants du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso, engagés dans la constitution de cette force conjointe.
Nous reviendrons sur cette actualité dans notre page magazine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En RDC, les catholiques en prière à deux jours de la marche anti-Kabila, à genoux ou debout, mains jointes devant l'autel. Des fidèles catholiques ont prié aujourd'hui à Kinshasa pour la paix en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, à l'appel du pape François, à deux jours d'une nouvelle marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont ils veulent qu'il déclare publiquement qu'il va bien quitter le pouvoir. Interdites, les dernières marches ont été sévèrement réprimées. Dans la capitale centrafricaine Bangui, le quartier musulman du kilomètre 5 est de nouveau en proie à une nouvelle flambée de violence suite à une histoire de braquage entre les éléments de force, un groupe d'autodéfense, et ceux de You, un des chefs de la faction rivale. Ces incidents ont provoqué la mort de 3 personnes, dont une femme musulmane, et de nombreux blessés. Félix Yepassi Zembro a joint Anour Liman, président du cercle de la jeunesse islamique centrafricaine, pour le développement.
selon le bilan, il y a eu 3 morts et plus de 7 blessés. Il y a des civils aussi qui ont reçu des balles perdues. Il y a eu malentendu entre les deux factions des autodéfense, donc qui a dégénéré une chance de tir. Donc, ce matin, nous sommes reliés vraiment sur les détonations des armes lourdes et des grenades de tous les calibres. Il y a deux factions, donc l'autodéfense, faction de You et de Force. Donc, c'est eux qui se sont échangés. C'est-à-dire qu'il y a un problème interne, quoi, concernant la gérance du marché. C'est ça qui a dégénéré tous ces genres de problèmes. Maintenant, il y a la calmer, donc on est en train de gérer la situation. Merci aussi au ministre de l'Intérieur, donc il a pu venir au niveau du kilomètre 5, raconter les deux belligérants, juste pour leur dire que vraiment, il faut qu'ils cessent leur d'acte, parce que la population veut la paix. Il faut qu'ils contribuent pour le développement et contribuent pour la cohésion nationale.
Anour Liman, président du Cercle de la jeunesse islamique au quartier PK5 de Bangui. Au Tchad, 295 prisonniers de droit commun ont été libérés ce vendredi en application du décret de remise collective de peine signé du président de la République Idriss Déby Itno. On fait le point avec notre correspondant en N'Djamena, André Kodmadjingar.
295 pensionnaires de la maison d'arrêt de N'Djamena ont reçu des mains des autorités judiciaires leur certificat de remise en liberté de 5 ans. Ceux qui ont été condamnés à plus de 5 ans doivent purger le reste de leur peine avant d'être libérés. Pour le procureur de la République, Mohamed Saleh Youssouf, cette faveur allège uniquement la peine et non la condamnation civile.
Le régime prendra le soin de les notifier. Comme ils ont été condamnés à payer une peine d'amende, la peine d'amende est payable dans les 3 mois qui suivent. Donc ils doivent s'organiser pour payer l'amende dans les 3 mois qui suivent. Passer les 3 mois, c'est possible qu'on puisse le contraindre par corps.
Sourire aux lèvres, quelques bénéficiaires se réjouissent de leur mise en liberté et demandent à Dieu de les pardonner.
C'est un problème de bagarre avec mon ami, je l'ai blessé avec des bouteilles. Que Dieu me pardonne. La prison, c'est une vraie leçon même. Ça m'a appris beaucoup de choses.
Ce cas de vol, tenter et ce n'est pas blâmable. Donc on m'a arrêté sans que je touche. Moi, ce que je demande, aidez-nous à trouver le travail.
Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Dimadiba et Katangar Emé, c'est par humaniste que le chef de l'État a décidé d'alléger la souffrance de ses concitoyens incarcérés. Pour leur permettre de se lancer dans la vie active, ces bénéficiaires seront pris en charge dans le programme de réinsertion sociale du gouvernement, a-t-il dit. André Kodmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
Le président Nana Akufo-Addo du Ghana a mis en place un procureur spécial chargé de mener la lutte contre la corruption dans son pays. Le Ghana est souvent cité un exemple pour sa bonne gouvernance, mais il a reculé de 7 points en 2 ans dans le récent classement de Transparency International. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition Citoyen pour l'innovation doit être dissous. C'est la demande faite hier par le procureur général de la République, David Nguema Obiang, au procès de 147 militants de ce parti. Ils ont été arrêtés depuis les élections législatives de novembre et jugés depuis le 12 février à Mongomo, fief du président Teodoro Obiang Nguema. Une peine de mort a été requise pour ces prévenus. Les Djiboutiens ont voté ce vendredi lors d'élections législatives boycottées par une grande partie de l'opposition. Le scrutin devrait une nouvelle fois conforter le pouvoir du parti du président Ismaël Omar Guelleh en poste depuis 1999. Jacques Aristide.
Quelques 194 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner 65 députés. Le vote risque toutefois d'être encore marqué par une forte abstention. L'opposition est divisée comme en 2016. Le MRD, le RAD et une branche de l'ARD ne présentent aucun candidat. D'autres partis ont choisi au contraire de participer, mais non de candidats que dans certains endroits. Quant à l'UMP, le parti au pouvoir, il est lui représenté dans chaque circonscription. Ceux qui prônent le boycott estiment que ces élections ne peuvent en aucun cas être justes et transparentes et que les partis d'opposition qui y prennent part ne font que cautionner le régime. Pour Maître Zakaria Abdillahi, le président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme et ancien député de l'opposition, le chômage et la pauvreté font qu'il y a un désintérêt total de la population. Une innovation néanmoins, la loi prévoit désormais que 25% des sièges de députés soient réservés à des femmes, contre 10% auparavant. Une mascarade, d'après Maître Abdillahi, pour faire plaisir à la communauté internationale.
La police zimbabwéenne a reconnu aujourd'hui avoir tué par balle 2 personnes au cours d'incidents violents provoqués par l'interdiction faites aux minibus de prendre des passagers dans le centre de la capitale. La municipalité a pris cette mesure très controversée hier afin de réduire la circulation dans le centre-ville. Le gouvernement a annulé cette interdiction, mais la police était déjà déployée pour veiller à son respect.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La direction palestinienne a qualifié aujourd'hui de provocation la décision américaine de transférer à Mel l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem et estimé que l'administration Trump était devenue un obstacle à la paix. La date du 14 mai évoquée par la presse israélienne coïncide dans le calendrier occidental avec le 70e anniversaire de la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Les Palestiniens commémorent chaque année cette occasion comme la Nakba, la catastrophe en arabe, synonyme d'exode pour des centaines de milliers de personnes jetées sur les routes lors de la première guerre israélo-arabe qui a suivi la création d'Israël. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nathalie Barge.
Dubaï accuse Djibouti d'avoir saisi illégalement le terminal de conteneurs d'Oralé opéré par DP World. Le gouvernement djiboutien a résilié le contrat de concession en invoquant des éléments en contravention flagrante avec la souveraineté de l'État et les intérêts supérieurs de la nation. Djibouti accuse l'entreprise émiratie d'avoir versé des pots de vin pour obtenir une concession de 50 ans. Forte hausse des prix des produits alimentaires à Ouagadougou en Mauritanie, selon l'association Rama de protection du consommateur. Le prix du riz local est passé de 6 000 à 7 000 ougia le sac, celui du riz importé de 14 500 à 16 500, tandis que le prix des pâtes et des œufs a augmenté de 40% et celui du poisson courbine de 66%. L'ONG appelle les autorités à intervenir sur les marchés pour redresser ses prix. La vente des billets d'avion au Cameroun a produit 68 milliards de francs CFA en 2017, selon le syndicat national des agences de voyage et tourisme. Mais le pays perd 950 millions de francs CFA par an à cause d'une taxe qui ne s'applique pas en dehors des frontières de la CEMAC. Le syndicat a porté plainte contre les agences de billetterie transfrontalière, tandis que le gouvernement prévoit de réorganiser le secteur.
Et Nicolas Pineau nous a rejoint dans ce studio, c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par la Super Coupe d'Afrique qui se joue demain à Casablanca.
Et oui, ce sera samedi à Casablanca, les Marocains du Wydad face aux Congolais du tout-puissant Mazembe. Et cette fois devrait être la bonne, l'assistance vidéo à l'arbitrage sera utilisée pour la première fois en Afrique lors de cette Super Coupe de la CAF. Ce dispositif devait être introduit fin janvier pour le CHAN, mais les arbitres n'ont pu y recourir faute d'autorisation du board. C'est l'organe garant des lois du jeu de la FIFA.
Il faut dire que la Super Coupe oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions africaines à celui de la Coupe de la Confédération.
On rappelle que cette Super Coupe oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions africaines à celui de la Coupe de la Confédération. Après 25 ans d'attente, le Wydad Casablanca a remporté la Ligue des champions en novembre dernier pour la deuxième fois de son histoire. Deuxième club le plus titré d'Afrique, le tout-puissant Mazembe remportait au même moment la Coupe de la CAF.
Tirage au sort des huitièmes de finale d'Europa League.
Milan AC, Arsenal, c'est le choc sorti du tirage au sort effectué aujourd'hui en Suisse. Les autres grosses écuries de cette édition ont été épargnées puisque l'Atlético Madrid va jouer contre le Lokomotiv Moscou, le Borussia Dortmund face à Salzbourg, les autres huitièmes, la Lazio de Rome contre le Dynamo Kiev, Leipzig contre le Zénith Saint-Pétersbourg, le CSKA Moscou contre Lyon, Marseille Athletic Bilbao ou encore Sporting Portugal, Psen.
Et on reparle des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.
Jour historique pour le hockey sur glace allemand. Les jaunes et noirs ont réussi un exploit en éliminant le Canada, double tenant du titre et largement favori lors de cette demi-finale du tournoi olympique. Les Allemands, que personne n'attendait à ce niveau de la compétition, disputeront leur première finale olympique où ils retrouveront dimanche les Russes qui, de leur côté, n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 20 ans. Les Russes ont les faveurs des pronostics. Au tableau des médailles, la Norvège toujours en tête avec 37 7 médailles, dont 13 en or, devant l'Allemagne et le Canada.
Et pour terminer, la NBA, le championnat reprend ses droits après la All-Star Game à Los Angeles, Nicolas.
Oui, la star de Cleveland, LeBron James, s'est incliné contre les Wizards de Washington, 103-110. À l'ouest, Stephen Curry a connu un retour bien meilleur avec les Warriors. Le meneur a inscrit 44 points pour mener Golden State à la victoire contre les Clippers, 134-127. Enfin, à Chicago, Philadelphie l'a emporté d'un rien, 116-115.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, mise en onde par Sims Lumami. Place à présent au dossier du jour. Coup de pouce financier à la force militaire conjointe du G5 Sahel. Le sommet du G5 Sahel à Bruxelles a permis de porter à 414 millions d'euros les promesses des donateurs. Le budget initial prévu est maintenant bouclé. Yacouba Ouédraogo a joint Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
On avait estimé les besoins de la force conjointe pour la première année, c'est-à-dire le lancement et le fonctionnement de la première année à 423 millions d'euros. Et là, depuis le début à la conférence d'aujourd'hui, on est à un niveau de contribution de 414 millions d'euros. On peut dire que le budget est bouclé, puisqu'en termes numéraires, on est à moins d'une dizaine de millions d'euros. Mais puisqu'il y a des contributions qui sont en nature, qui sont en équipement notamment, l'Égypte, par exemple, qui a annoncé une centaine de véhicules blindés et non blindés pour le transport de troupes. Si on met tout ça ensemble, on peut dire que le budget est bouclé.
Essentiellement des intentions de financement. Est-ce que ces intentions, bien sûr, annoncées là, ont été suivies de décaissements?
La première annonce avait été faite par l'Union européenne il y a de cela plusieurs mois. Et ça concernait 50 millions d'euros. Cet argent est déjà dans le circuit pour l'achat d'équipements. Le reste, il s'agit d'annonces qui sont nouvelles. Et le président du FASO a insisté sur le respect des engagements pris. L'utilisation des fonds, c'est quelque chose qui est assez important. Mais il n'y a pas que les pays du G5 qui insistent sur cette question.
À qui reviendra la gestion de ces fonds-là?
Pour nous, le G5 Sahel devrait être le gestionnaire de ces fonds. À travers le fonds fiduciaire que nous avons récemment créé, lequel fonds fiduciaire est adossé à deux structures, un comité de soutien et un comité de contrôle, donc une sorte d'organe de contrôle, dans lequel peuvent siéger les pays contributeurs ou les organisations qui contribuent, de sorte à en assurer donc la bonne gestion et la transparence. Maintenant, il y a un mécanisme qui a été mis en place aussi côté européen. Ce n'est pas la position du G5 Sahel, mais nous continuons les discussions pour voir quelles sont les meilleures formules. Le plus important pour nous, c'est que tout ce qui va être mis en place soit d'une facilité de décaissement, d'une facilité d'utilisation.
Le G5 Sahel a eu du mal à réunir les fonds nécessaires pour financer la force conjointe. Est-ce qu'il n'y a pas de souci à se faire sur la viabilité de cette force-là à long terme?
Je ne peux pas dire qu'on a eu du mal à réunir les contributions parce que déjà, en peu de temps, 5 pays ont réussi à mettre ensemble leurs différentes forces pour créer une force conjointe. Mais nous continuons de demander que le G5 Sahel, notamment sa force conjointe, bénéficie d'un mandat clair et net sous le chapitre 7 des Nations Unies, ce qui lui donnerait une garantie de financement grâce aux contributions obligatoires des États.
Alpha Barry, joint à Bruxelles.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Rwanda, 5 réfugiés congolais ont été tués et une vingtaine de blessés par la police lors de la dispersion d'une manifestation des réfugiés du camp de Kiziba à l'ouest du pays. Les réfugiés protestaient contre la réduction des rations alimentaires. Raïssa Girondin a joint Cécile Pouilly, porte-parole du HCR à Genève.
Le nombre de morts est en augmentation. Nous avions parlé ce matin d'un bilan faisant au moins 5 morts parmi les réfugiés et de nombreux blessés. Malheureusement, au cours de la journée, les dernières informations nous indiquent que ce bilan pourrait s'élever à 11 morts et plus de 40 blessés, parmi lesquels des policiers, pas seulement des réfugiés.
Le Rwanda accueille plus de 170 000 réfugiés. Et tout ce monde est réparti dans 6 camps au Rwanda. Mais pourquoi cette manifestation est intervenu qu'avec les réfugiés du camp de Kiziba?
Ce camp qui compte donc à peu près 17 000 réfugiés a été établi de longue date. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés récemment de République démocratique du Congo. Mais il y a une dégradation de la situation dans ce camp en raison de coupure de l'aide alimentaire et notamment des rations alimentaires en raison du manque de fonds. Le programme alimentaire mondial a réduit ses rations de 10% au mois de novembre dernier et à nouveau de 25% en janvier 2018. À ces coupures s'ajoute véritablement un sentiment de désespoir, un manque de perspective pour ces réfugiés dont certains sont nés dans le camp et ne voient aucune amélioration de la situation dans leur pays d'accueil et sont donc poussés à bout, si vous voulez, totalement désespérés.
Ces réfugiés dépendent complètement, à 90% des rations alimentaires pour subvenir à leurs besoins. Des conséquences plus importantes dans l'avenir ?
Mais on le craint tout à fait. Hein, la réduction prolongée des rations menace leur sécurité alimentaire. Nos demandes de financement ne sont pas entendues. Nous sommes seulement financés à hauteur de 2%. Sur un budget total de 98 millions de dollars pour l'année en cours. Donc on sait très bien qu'il y aura des conséquences, que ce soit en termes de besoins nutritionnels ou de tensions à venir qui vont s'aggraver. On en a vu aujourd'hui les conséquences très concrètes et très meurtrières.
Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres stratégies, des stratégies communes pour ce nombre grandissant de réfugiés pour qu'ils puissent devenir autonomes et qui puissent contribuer même au développement économique de leur communauté hôte?
Alors vous savez, c'est un travail qu'on fait de grande ampleur, en particulier toute cette année, pour effectivement sortir les réfugiés des camps et pour leur permettre de s'intégrer dans les services nationaux. Et parce que les réfugiés ne sont pas simplement des gens qui ont fui la guerre ou la persécution, ce sont des gens qui ont des capacités, qui ont une volonté de rebondir, qui, si on leur donne une chance, sont capables de contribuer utilement à leur communauté d'accueil. Et donc nous, bien sûr, on encourage fortement les autorités à travers le monde à prendre une autre approche et à donner à ces gens, notamment, des permis de travail pour qu'ils puissent ne plus dépendre d'aide alimentaire. On a un pacte mondial qui sera présenté en septembre 2018 par le haut commissaire pour quitter une dimension purement humanitaire de la question des réfugiés et pour offrir des perspectives durables à ces personnes.
Cécile Pouilly, porte-parole du HCR à Genève.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Quatre chefs d'État de la CEDEAO ont adopté cette semaine une nouvelle feuille de route pour la mise en place d'une monnaie unique en 2020. Un institut monétaire chargé de remplacer les différentes banques centrales va aussi être créé en 2019. Ces échéances, autant pour moi, sont-elles réalistes? C'est la question qu'Abdourahmane Dia a posée à l'économiste Meissa Babou à Dakar.
Je crois que 2 ans me semble assez court par rapport aux enjeux. Parce qu'en fait, il y a quand même un événement économique à observer. Sur le principe, je crois que c'est très bien parce qu'en fait, c'est une prise de conscience que maintenant c'est possible et qu'il y a un engagement. Mais sur le modèle proposé, à savoir une entrée pratiquement à la carte, pour ceux qui seront prêts en 2020, je crois que ça, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'en fait, une cohabitation risque de nuire à la nouvelle monnaie parce qu'il faudra, dans ce cas, beaucoup de temps pour gagner la confiance aussi bien des bailleurs que des concitoyens.
Donc, vous n'êtes pas d'accord sur la mise en place progressive de la monnaie unique? Il faut le faire pour tous les 15 pays ou alors attendre que tous les pays soient prêts?
C'est comme en euro. L'euro, dans des pays en difficulté, c'est vrai, à percer progressivement, mais ce que je crains, c'est que cette monnaie soit affaiblie par une cohabitation. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être aider certains pays qui sont en retard pour quand même ne pas éviter une prééminence d'une monnaie sur une autre, et ce qui peut-être pourrait nuire en tout cas à la nouvelle monnaie.
Mais on peut dire que les lignes bougent quand même, non?
C'est le moment d'une autonomisation monétaire, parce que ça nous permettrait au moins, à partir de ce maintenant-là, de pouvoir mener une politique monétaire au niveau quand même de nos banques centrales respectives, et que nos réserves aussi pourront être désormais gérées par nous-mêmes. Et tout le monde connaît l'enjeu de la politique monétaire, car surtout quand les économies sont en difficulté. Et ce qui plombe davantage derrière la consommation en Afrique, c'est ça. Nous avons des taux d'intérêt exécrables.
Et justement, l'adoption d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO signifierait la mort du CFA. Et le président ivoirien, qui est considéré comme un grand défenseur du CFA, a même dit que son pays serait prêt en 2019 pour ce qui est des critères de convergence. Est-ce que cela est une surprise pour vous?
Non. Peut-être l'annonce est une surprise. Parce qu'en fait, Ouattara et le président Macky Sall étaient peut-être les présidents qui n'étaient pas très chauds. Mais la situation économique de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sont quand même des situations qui permettent dès 2020 d'entrer dans l'échec. Ça, c'est clair.
C'était l'économiste Meissa Babou, joint à Dakar.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui, mise en onde par Sims Lumami. Cedric Franklin était à la console. Présentation John Lyndon. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur voafrique.com.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la gouvernance du Nigeria bénéficieront d'une nouvelle aide des États-Unis. L'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, a annoncé une enveloppe additionnelle de 89 millions de dollars en faveur du Nigeria. Cet appui vise à poursuivre le soutien aux objectifs prévus dans l'accord d'assistance aux objectifs de développement signé en 2015 par le gouvernement américain et nigérian. Près de la moitié de nouveaux fonds, soit 44 millions de dollars, soutiendra la lutte contre le VIH-SIDA à travers le plan présidentiel d'urgence contre le SIDA, le PEPFAR. Le reste aidera le nord-est du Nigeria à accroître la productivité agricole, la croissance économique et la résilience à travers l'initiative Feed the Future du gouvernement américain. Il s'agit aussi de renforcer l'éducation, soutenir la bonne gouvernance et améliorer les infrastructures d'adduction d'eau et d'assainissement. Les nouveaux fonds porteront à 808 millions et demi de dollars l'aide du gouvernement américain au Nigeria sous le plan d'assistance étalé sur 5 ans. L'USAID a collaboré avec le ministère nigérian du budget et de la planification nationale, ceux de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et de l'éducation et leur homologue au niveau des États pour notamment structurer l'accord bilatéral d'assistance qui court jusqu'à 2020. En plus des fonds d'appui au développement, les États-Unis fournissent une assistance humanitaire aux personnes affectées par le conflit en cours au Nigeria ainsi que la sévère insécurité alimentaire dans la région du lac Tchad. Le gouvernement américain, sous la conduite de l'USAID, a octroyé plus de 526,7 millions de dollars d'assistance humanitaire depuis 2017 et continue d'être le plus important donateur humanitaire bilatéral dans la région. Cette nouvelle assistance souligne l'importance continue des relations entre le Nigeria et les États-Unis, a déclaré Julian Conan, administratrice adjointe de l'USAID au Nigeria. Notre solide partenariat avec le Nigeria et ses institutions renforcera les efforts du Nigeria en vue d'améliorer ses systèmes de santé, d'éducation, de gouvernance et son agriculture dans les zones du pays où ils sont les plus nécessaires.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.